La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Et c'est l'heure de zoomer et décrypter toutes les dernières infos du jour avec les grandes voix ce soir depuis leur salon. Ils sont confinés. Le retour d'Ève Roger, chef du service société d'Europe 1. Emmanuel Dutheil en charge de l'économie à Europe 1. Mickaël Darmon, éditorialiste politique. Et depuis Bruxelles, ce soir, notre correspondante en Belgique, Isabelle Horry. Bonsoir les grandes voix. Bonsoir Isabelle Horry depuis Bruxelles.
Bonsoir Nathalie.
J'adore ce bonsoir enthousiaste. Alors écoutez, je suis ravie de vous retrouver, une nouvelle semaine ensemble. On va venir vous voir en Belgique dans un petit instant, Isabelle Horry. Je voudrais saluer Ève Roger qui nous revient. Ève Roger, on est content de vous entendre.
Alors, moi aussi. On serait...
Bon, mais je serais encore plus contente si vous pouviez m'éclairer ce soir sur PCR, sérologique ou salivaire. Où est-ce qu'on en est franchement des tests, Ève?
Alors, ce qui m'apparaît flagrant, c'est quand on a présenté le test sérologique, vous saviez, on devait faire une prise de sang, puis vous dire vous avez été atteinte ou pas atteinte, et puis vous pouvez aller vous balader, et comme le sésame, c'est ce qui allait nous permettre de sortir de chez nous, de descendre les escaliers, de pouvoir aller nous balader tranquillement, et puis badaboum, on se rend compte qu'en fait, pas du tout. C'est pas comme ça, on n'aura pas un passeport sérologique qui nous dira oui ou non, tu peux sortir. Ça devient de plus en plus compliqué, parce que l'immunité est une chose extrêmement complexe, et qui est totalement certaines dans le cas de ce virus-là. C'est-à-dire que, comme d'habitude, on a réfléchi avec les repères qu'on avait avec d'autres virus. On s'est dit, bon, il y a une immunité. La grippe, on sait que ça dure quelques mois. La rougeole, on sait que ça dure toute la vie. Le rhume, on sait que ça dure quelques semaines. Donc, on s'est dit, le virus, le SARS-CoV-2, ça va durer peut-être quelques mois. Et puis, en fait, on se rend compte, il y a une étude chinoise qui dit que sur 175 patients, il y en a 60% qui ont effectivement ont eu des anticorps, mais il y en a 30% qui en ont eu très, très faiblement et 10% pas du tout. Ça veut dire qu'ils ont été malades et puis que finalement, peut-être que... Alors, on n'a aucun cas aujourd'hui documenté d'une réinfection. Alors ça, c'est important à dire. Mais il y a une maladie qui parfois revient, qui fait des allées et venues. Et donc finalement, on est complètement dans le brouillard. Donc résultat, on va se retourner vers le vieux bon test PCR, donc celui qui nous dit à l'instant T si on est malade ou si on n'est pas malade. Et ça va être notre boussole au moment du déconfinement. Et c'est pour ça maintenant, on se tourne vers ce test que vous savez, on fait avec ce petit coton-pied,
bâton. Voilà. Faut-il qu'on puisse en avoir suffisamment rapidement?
C'est toute la question. Il faudrait, selon Jean-François Delfraissy du Conseil scientifique, 100 000 tests à la sortie du déconfinement. Ceux-là, on commence à les avoir. Là, ça devient plus solide. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur les sables mouvants. On est moins sur les sables mouvants. Mais vous voyez qu'avec cette maladie-là, chaque jour apporte sa nouvelle.
Son lot de surprises. Avec maintenant le retour, et on en parlera peut-être demain avec vous, avec le docteur Jimmy Mohamed. On parle beaucoup maintenant des antibiotiques, finalement, qui seraient peut-être le meilleur traitement. On y reviendra précisément parce qu'effectivement, tout est dit et son contraire. On va se tourner vers vous, Isabelle Horry. On fait quelques kilomètres vers la Belgique, on n'a pas vraiment le droit, mais pour vous quand même, on va essayer de traverser comme ça la frontière, et on voudrait savoir comment ça se passe chez vous, parce que on déconfine là, ça y est, on y est quasiment, hein.
Alors nous, on attend le plan de déconfinement qu'on nous annonce pour vendredi, qui doit être présenté vendredi. Pour l'instant, on est censé rester confiné jusqu'au 3 mai. Donc on ne sait pas très bien ce qui se passe après le 3 mai. Et c'est vrai qu'il y a quelques magasins qui ont rouvert, notamment les magasins de bricolage et de jardinerie. Oui. Et ça, c'était surtout pour que les gens puissent s'occuper en fait pendant le confinement, qu'ils puissent passer du temps dans leur jardin ou à repeindre leur plafond, si jamais ils avaient un peu de... Ils s'ennuyaient un petit peu, ça a été dit comme ça. C'était vraiment pour pas que les gens s'ennuient. On en est là pour l'instant.
On en est là pour l'instant. Mais alors, plus sérieusement, il y a une vraie question sur le nombre de victimes par habitant. C'est quasiment 5000 morts pour un pays, soyons clairs, de 11 millions d'habitants.
On n'est pas du tout dans les proportions françaises. On en est à 5800 même maintenant. Ouais. Alors, c'est vrai que ces chiffres, ils font un peu froid dans le dos. Ils ont même été utilisés aux États-Unis lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche où il y avait Donald Trump. Il y avait un tableau pour montrer quels pays étaient les plus touchés en rapportant au nombre d'habitants et par 100 000 habitants. Et effectivement, la Belgique était tout en haut du palmarès, c'est-à-dire devant l'Espagne, devant l'Italie, devant la France. Alors, ça a fait du bruit ici, mais ce qui est bizarre, c'est que alors voilà, il y a ces chiffres très élevés, et puis en même temps, les hospitalisations diminuent fortement. Jamais les hôpitaux n'ont été saturés. Donc c'est vrai que ça donne un tableau un peu étrange. Donc les autorités sont régulièrement questionnées là-dessus. L'explication, c'est que les Belges ont décidé de pas compter comme les autres. Alors ils comptent les morts en hôpital, mais ils comptent aussi les morts en maison de retraite en intégrant, et c'est un peu la différence avec les autres pays, peut-être même avec la France, tous ceux qui meurent en EHPAD pour lesquels on a une suspicion, mais sans test. Ouais. Et donc, par exemple, si vous regardez les chiffres qui sont tombés aujourd'hui, eh bien, il y a 5 800 morts au total, dont 122 personnes qui sont mortes et qui ont été testées positives en maison de retraite. Mais sur les 5 800, il y a 2 900 morts suspectes. C'est-à-dire plus de la moitié des cas, on n'est pas du tout sûr que ces gens sont morts du Covid-19, parce que dans les maisons de retraite, les gens meurent aussi de vieillesse
ou d'autres pathologies. Ouais.
Donc les autorités belges expliquent que si elles font ça, c'est pour être sûres de ne pas sous-estimer l'épidémie. Alors c'est vrai que ça peut un peu faire peur, notamment au-delà des frontières. Mais c'est vrai que bon, voilà, ici on a pris l'habitude de vivre avec ça, donc on est un peu moins effrayés.
Bon, on va revenir vous voir dans un instant, bien sûr, à Bruxelles, en Belgique. Emmanuel Duteil, on en a parlé dans le journal de Sébastien Krebs tout à l'heure, et puis ça a fait le tour des réseaux tout le week-end. Ce sont ces images de passagers dans des vols Air France, très proches les uns des autres, alors que normalement, il y a cette distance de sécurité, ces gestes barrières imposés, ou en tout cas vivement recommandés, y compris en l'air.
Oui, effectivement, vous avez raison, on a tous vu ces images diffusées notamment par France 2 d'un avion littéralement bondé avec personne ou quasiment personne avec des masques. Donc effectivement, ça pose des questions sur les règles qui sont mises en place. On nous dit à nous, il faut être à chaque fois à plus d'un mètre de quelqu'un et faire très attention. Alors pourquoi ça ne s'applique pas à l'aviation? Donc jusque là, il y a quand même eu quelques petits soucis. Le secrétaire d'État au transport qui était invité à la mi-journée d'Europe 1 a enjoint Air France à au minimum distribuer des masques. Ouais. Après, ce sur quoi il faut faire attention, et même si on peut considérer que c'est totalement inadmissible ces images, c'est que finalement, il y a très peu de vols comme ça, voire quasiment aucun vol comme ça. Pourquoi ? Parce que là, c'était un vol plein. Vous imaginez bien qu'en ce moment, il y a très, 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 très peu de vols pleins. Le secrétaire d'État au transport a communiqué des chiffres. Il a dit qu'il y avait ce week-end, par exemple, 43% d'occupation dans un avion. C'est-à-dire qu'ils étaient à moitié pleins. Et quand ils sont à moitié pleins, c'est assez simple de faire respecter la distanciation sociale au sein d'un avion. Mais malgré tout, voilà, ça pose problème. Mais, et on pourrait trouver ça étonnant, il n'a pas obligé la compagnie à respecter, on pourrait se dire, allez, un siège au milieu, un siège devant, etc., etc., parce qu'il estime, c'est son argument, que les avions sont désinfectés à chaque fois, et que donc finalement, quand vous montez dans un avion, cet endroit est propre, il n'y aurait pas trop de risques, mais bon, moi je comprends pas
très bien. C'est vrai que ça laisse un peu perplexe quand même.
C'est-à-dire que l'avion a beau être propre, si le voisin est malade et qu'il tousse, c'est pas parce que l'avion est propre que le virus ne bougera pas, mais enfin bon, c'était l'une des raisons données. Donc voilà, il va falloir qu'Air France fasse maintenant quand même beaucoup plus attention. Et c'est vrai que ça tranche beaucoup, parce qu'on en parlait avec vous, Nathalie, la semaine dernière avec la SNCF. Alors là, vous avez des images de train vide. Si vous avez un jour rêvé de voyager seul dans un train, je peux vous dire que c'est en ce moment qu'il faut le faire. Les TGV roulent à 1% de leur capacité. Et là, c'est vrai que la SNCF, elle, ne vend pas de place à côté, sauf si, bien évidemment, vous êtes en couple et ou confiné ensemble.
Ouais, c'est ça. Bon, on va revenir aussi vous voir dans une petite seconde. Michaël Darmon, on parle politique avec vous chaque soir dans les grandes voies. Alors, le programme présidentiel, il est un peu aux oubliettes, on va dire les choses telles qu'elles sont. Le seul texte envisagé à la rentrée, c'est évidemment un texte qui a trait aux personnes âgées, à nos aînés, et pour cause.
Oui, effectivement. Et pour reprendre un petit peu ce qu'expliquait tout à l'heure Ève Roger, on voit bien que ce virus brouille toutes les lignes, perturbe tout, est très difficilement jugulable de ce point de vue-là. Eh bien, c'est pareil pour, figurez-vous, pour le macronisme, tout simplement, où dans les hautes sphères aujourd'hui de La République En Marche et du gouvernement, on considère que le programme présidentiel n'existe plus. Que le projet qui était de transformer la France revient maintenant simplement à préserver ce qui était. Ce système qu'il fallait changer, maintenant il faut juste le garder comme il est et voir le reconstruire. Et c'est vous dire la révolution copernicienne, pour le coup, qui est imposée à l'équipe exécutive et bien sûr en premier lieu à Emmanuel Macron. Alors c'est vrai que on avait vu que les grandes réformes problématiques, notamment celle des retraites, sont enterrées, au moins largement reportées. Mais bien sûr, le texte sur la dépendance prend beaucoup de dimensions. dimension et d'acuité. Et puis tout cela débouchera, bien entendu, tel que l'on comprend et qu'on l'entend de partout entre les sphères de l'exécutif, c'est que un vaste remaniement se prépare, puisqu'à la fin de cette consultation, on devra y arriver.
Bon, alors attendez, gardez-en un petit peu pour tout à l'heure, si vous voulez bien. Parce que c'est vrai que vendredi, on n'a pas pu aller là-dessus véritablement, alors que c'est déjà amorcé depuis la semaine dernière. En tout cas, on entend...
Enfin, la réflexion continue, on va en parler tous les soirs si on veut.
Alors voilà, donc comme évidemment chaque jour apporte son lot d'informations, on y revient dans la seconde partie avec vous tous les grandes voix. À tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix autour de vous, Nathalie Lévy. Ils sont tous confinés, mais bien là pour nous informer. Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Emmanuel Duteil, chef du service Économie à Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, et depuis Bruxelles ce soir, notre correspondante en Belgique, Isabelle Horry.
Oui, Isabelle Horry, Isabelle Horry, il y a un sujet évidemment qui commence à tous nous obséder nuit et jour, ce sont les vacances d'été, bien sûr. Comme nous, comme vous, la question elle se pose, surtout que quand Édouard Philippe nous dit pas question a priori de sortir du pays, on se dit qu'est-ce qui va rester. Alors chez vous, comment on se penche sur la question et précisément du côté de la Commission européenne?
Voilà, alors c'est vrai que c'est pas qu'en France, hein, c'est un sujet qui commence à agiter toute l'Europe. Alors si on part de là où on est maintenant, il faut savoir qu'il y a plus de la moitié des pays de l'espace Schengen qui ont fermé leurs frontières intérieures. Bon, moi par exemple en Belgique, je ne peux pas aller en France en ce moment. Ouais. Alors du coup, c'est vrai que ça risque de poser un gros problème pour le tourisme. Il y a des pays comme la Grèce, le tourisme c'est 20% du PIB, l'Espagne c'est 14% du PIB. Donc vous imaginez les enjeux pour eux si les touristes des autres pays européens, des pays voisins ne peuvent pas venir. Alors, sur ce sujet, on attend de savoir ce que vont dire les autorités européennes. La présidente de la Commission européenne envoie des signaux contradictoires. Et il y a 10 jours, elle avait dit « ne réservez rien pour cet été ouais. ». Mais alors là, elle semble un peu plus optimiste. Elle a dit dans une interview ce week-end « on va trouver des solutions intelligentes pour les vacances, peut-être des vacances un peu différentes, avec des règles d'hygiène, ouais. avec un peu plus de distance sociale ». Bref, elle semble quand même ouvrir la porte au fait qu'on pourra peut-être aller dans d'autres pays. Elle estime que si des régions frontalières sont dans des situations similaires par rapport à l'épidémie, alors les frontières pourront peut-être rouvrir. À ce stade, c'est quand même un peu chaque pays qui réfléchit dans son coin, ouais. comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc, alors, début avril, l'Espagne avait envisagé de fermer ses frontières aux touristes étrangers. Ouais. On n'a pas reparlé depuis. Et puis alors l'Autriche, par exemple, qui est un pays qui est déjà assez à l'avant-garde pour le déconfinement, elle est en train de réaliser qu'elle aura pas assez avec juste les Autrichiens pour faire tourner son industrie touristique. Et donc Vienne envisage des accords bilatéraux avec certains pays, par exemple l'Allemagne. C'est-à-dire que les Autrichiens disent les Allemands vous pourrez venir, mais juste les Allemands parce que chez vous, on sait que vous très peu ont été malades. Voilà.
En Belgique, encore un casse-tête chinois en perspective.
Ouais, comme d'habitude, on ne sait pas du tout, mais ça va s'éclaircir dans les jours qui viennent quand les plans de déconfinement vont sortir. Alors chez moi, il y a un espèce de petit gag, c'est que tout le monde se prépare quand même à passer ses vacances en Belgique. Et alors la côte en Belgique, elle est en Flandre. Donc toute la côte belge, la mer est en Flandre. Donc la question, c'est est-ce que les francophones vont quand même pouvoir aller à la mer cet été? Et ça, c'est pas gagné.
Bon, écoutez, on en saura plus. Vous nous avez dit chez vous, c'est quand? Quand est-ce qu'on en sait plus chez vous? C'est cette
semaine? Alors, chez moi, le plan de déconfinement, c'est vendredi.
Voilà, c'est vendredi. Et chez nous, Emmanuel Duteil, c'est demain, normalement, qu'on en sait plus sur le tourisme et sur ce que vont pouvoir faire les restaurateurs, les hôteliers pour les semaines à venir, post 11 mai, puisque jusque-là, ils n'ont pas de précision. On pourra imaginer peut-être des établissements ouverts partiellement. On saura demain.
Oui, alors effectivement, nous demain, c'est pas le plan de déconfinement qui est attendu bien, bien loin de là. C'est avant tout le plan de soutien à toute cette industrie touristique. Donc dans le cadre, bien évidemment, d'une réflexion sur un plan de soutien, suppression des charges, annulation de plein de dépenses, bien évidemment qu'il va falloir se poser la question des vacances. Et tous les professionnels du tourisme réfléchissent bien évidemment à cette saison. La seule certitude, c'est qu'a priori, on va pas aller encombrer les plages en Flandre. On va rester chez nous puisque l'idée principale de tous les spécialistes du tourisme qu'on en a pu joindre ces derniers jours au service économie et social d'Europe 1, c'est qu'on va jouer sur de l'ultra local. Alors c'est quoi de l'ultra local? C'est 150, c'est 200 km, c'est 300 km maximum. On va éviter les zones où il y a beaucoup beaucoup de monde. Mais Vous savez, une fois qu'on dit ça, je pense que tout ce qu'on en est, on va en avoir tellement marre du confinement qu'à un moment, on va peut-être vouloir jeter sur une plage et il va peut-être falloir que quelqu'un nous rappelle à l'ordre pour dire « Oula, attention, on met pas trop de monde sur une plage ». Donc c'est tout ce sur quoi aujourd'hui l'exécutif va devoir travailler avec les professionnels du tourisme. Comment on arrive quand même à créer des vacances cet été, parce que tout, et là je voudrais pas empiéter sur les sujets d'Ève Roger, mais tous les psychologues le disent, après une période comme ça où les gens ont été bridés, il va quand même falloir un poil leur permettre de s'amuser un petit peu, en respectant bien évidemment les nouvelles normes sanitaires. Mais et par ailleurs, et là je reprends ma casquette du chef du service économie, si vous ratez une saison touristique en France. Alors Isabelle Horry avait tous les chiffres du tourisme en tête. Alors moi, je crois qu'en France, c'est 17% du PIB le tourisme, mais j'ai un doute avec 12%. Enfin bon, vous voyez, c'est quand même énorme. Si on rate ça, c'est cataclysmique. On sait déjà qu'on n'aura pas les étrangers, donc faut au moins que les Français dépensent, parce que sinon on va pas s'en sortir.
Bien sûr. Alors je vous garde aussi parce que il y a une autre information là qui commence véritablement à inquiéter, c'est le pétrole qui s'effondre, qui tombe, Emmanuel, au plus bas depuis 34 ans. Est-ce que c'est un vrai plongeon ou est-ce que c'est un plongeon qu'il faut lire de deux manières?
Oh bah là c'est un plongeon, il n'y a pas d'autre mot. Vous vous rendez compte, on vient d'enfoncer ce qu'on appelle le seuil des 10 $. C'est-à-dire, là on parle du pétrole américain qu'on appelle le WTI, c'est du jamais vu depuis 1986, et la raison est toute simple, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire du pétrole. Il y en a tellement, il est stocké partout en ce moment, qu'on ne sait pas quoi en faire. Il y a beaucoup trop d'offres par rapport à la demande, parce que les industries tournent au ralenti, l'aviation, il n'y a quasiment pas d'avions qui fonctionnent en ce moment, donc on n'a pas besoin de pétrole. Et c'est ça qui est impressionnant, et c'est ça qui explique cette baisse énorme. Après, à toute mauvaise nouvelle, il y a toujours, on dit toujours qu'une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle pour quelqu'un. Et bien pour ceux qui ont la chance de rouler, dans la limite, bien évidemment, du possible aujourd'hui, sachez que faire votre plein, là, va vraiment considérablement baisser. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais il y a des années, on était à $150 le baril. Là, on est à 10 $.
Ah oui, c'est ça. Donc, allez faire votre plein si vous avez l'occasion, en gros, d'aller faire...
Là, les gens peuvent attendre un peu, ça ne va pas remonter tout de suite.
Ça ne va pas remonter tout de suite, de toute façon.
Non, il n'y a pas de stress. On ne va peut-être pas créer une émeute dans toutes les stations-service de France. Donc, soyez patients, profitez de votre sortie un jour en vous disant, tiens, aujourd'hui, je n'ai rien à faire, je vais à la station-service.
Bon, ça fait un objectif. Ève Roger, je reviens vers vous. Avec nos histoires de masques, c'est pareil. Hein. C'est un peu comme les tests. On se demande si c'est obligatoire ou pas, les masques en tissu en plus, toute la différence aussi.
Je ne sais pas vous, mais j'ai été très troublée hier à la conférence de presse sur cette histoire de masques, disons en tissu, on va le dire simplement comme ça, ou masques en public, parce que je n'ai pas bien compris en réalité ce qui allait nous arriver au moment du déconfinement. J'ai compris que c'était probablement dans les transports qu'on aurait des masques en tissu. Et donc je me suis interrogée, je me suis dit, mais pourquoi ils ne sont pas plus clairs que ça? Ce n'est pas bien compliqué, les masques en tissu. Et puis en fait, en appelant la présidente de l'Ordre des pharmaciens, elle me dit, mais vous savez, 17 millions au moment du déconfinement de masques en tissu, en réalité, c'est pas beaucoup. Et donc, elle me dit, alors je sais pas si c'est vrai, mais il en faut à peu près 4 par personne. Donc, on est 40 millions d'adultes, donc 4 fois 4, 16, ça fait 160 millions. Donc, en fait, on va se retrouver dans la même situation avec les masques en tissu qui nous semblaient... Moi, je suis pas couturière, donc je me suis dit, bon, j'y arriverai pas à le faire moi-même, mais ça doit pas être très compliqué d'en trouver. Et en fait, ça va être aussi compliqué. Et c'est pour ça qu'encore une fois, on se retrouve avec une doctrine qui est un peu floue, parce que la pénurie flotte au-dessus de ces masques en tissu, de la même façon. Donc c'est vrai qu'on se dit, mais il y a bien un moment... Alors c'est vrai que ça va mieux du côté des masques chirurgicaux, mais c'est rien du tout, quoi. C'est vraiment rien du tout. Donc peut-être que je vais apprendre...
On n'est pas non plus là au bout de nos peines. Il va falloir s'y mettre, je crois. Il y a quand même des tutos, vous êtes au courant. Il y a des tutos, il y a des tutos pas mal. On replie le bandana, on met des élastiques, je vais vous l'envoyer, vous allez voir.
D'accord, ça peut servir à Normafnor niveau 1, comme les 17 millions. Enfin bon, bref, les pharmacies, elles rêvent de pouvoir, à défaut de les vendre, peut-être les distribuer. Mais on a entendu hier Edouard Philippe dire que ça serait peut-être la grande distribution, ça pourrait être au bureau de tabac, ça peut être à la poste, il y a encore plein de pistes. Et je ne sais pas si dans 3 semaines, on sera bien au fait de ce masque en tissu. D'ailleurs, je serais bien curieuse de savoir si vous en avez un, Emmanuel, vous en avez un, Michael?
Oui.
Non.
Vous en avez? Vous nous direez, vous l'êtes procuré alors, Michael?
Moi, j'en ai cousu.
Moi, je l'ai fait.
Vous l'avez fait.
Vous l'avez fait ou la cousu?
À la main. Non. Avec
moi, j'ai pas plus de talent de couturier qu'Ève Roger.
Non, avec
à la main, Michael. Bon.
Avec les serviettes en papier, une agrafeuse.
Avec les serviettes en papier? Très bien.
C'est pas la Fnor. C'est pas la norme à Fnor.
Non, c'est la norme d'Armon.
Alors, Mickaël, on veut les photos sur le Twitter, le compte Twitter de l'émission, s'il vous plaît, juste après la réponse à ma question, qui est celle-ci. Oui. Qui est celle-ci? Remaniement, c'est dans l'air du temps. J'allais dire que c'est presque plus dans l'air du temps que la garantie d'avoir les masques.
Oui, tout à fait. Ça flotte effectivement énormément, ça turbule même, puisqu'il est vraiment établi, en tout cas admis, qu'à la fin de cette consultation express que devrait lancer vraisemblablement durant le mois de juin le président de la République, avec l'ensemble donc des corps intermédiaires, associations, partis, élus, cela débouchera sur, comme on me dit, une nouvelle donne, un vaste rebattage des cartes au niveau gouvernemental, en ayant intégré l'idée d'ailleurs, même du côté de Matignon, que ça peut aussi concerner Édouard Philippe ou pas.
C'est ça. Donc, avec un Bruno Le Maire qui pousse, d'ailleurs.
Avec beaucoup qui poussent. Bruno Le Maire pousse avec la technique de je pousse mais je suis pas candidat. D'autres poussent sans rien dire tout en étant candidat. Enfin, c'est en ce moment, on est rentré dans l'effervescence classique pré-remaniement. On verra bien comment tout cela décantera. Mais en tout cas, il semble assez établi qu'une réorganisation gouvernementale viendra. Je voulais juste ajouter tenter peut-être d'apporter un peu de clarté à, effectivement, Ève Roger qui disait je n'ai pas très bien compris la conférence de presse d'hier. Eh bien, dans le prolongement de ce que je viens de dire, elle était en fait uniquement vraiment faite pour occuper l'espace. C'est-à-dire qu'il n'a pas échappé, bien sûr, à Édouard Philippe, l'offensive, entre autres, de Bruno Le Maire, qui est comme la plus voyante. Et il y a eu donc une décision aussi, évidemment, sous couvert d'expliquer aux Français, mais enfin, en leur laissant plus de questions que de réponses, qu'il fallait donc absolument occuper l'espace pour montrer qu'effectivement, le chef du gouvernement était encore
à la manœuvre. Donc, au risque, Michael, de parler pour ne rien dire et d'être extrêmement critiqué aussi par les Français.
Le risque a été largement assumé, je vous rassure. Et on voit bien que ça a produit effectivement ce que vous dites. Mais l'idée était effectivement d'occuper l'espace sans donner de vraies informations ou en tout en disant probablement obligatoire, on verra bien, je ne sais pas. Tout cela était assez, je dirais, cousu de fil blanc.
Donc gagner du temps, préparer les esprits, occuper l'espace, voilà ce qu'il en était. On a une communication prévue entre le 25 et le 29 néanmoins pour l'annonce de du déconfinement et en tout cas les précisions autour de la structure du déconfinement, c'est ça?
Oui, ça devrait se caler sur les 28-29 avril puisque les parlements et Sénat devront se saisir du débat, d'ailleurs également avec une évolution puisque le débat qui était prévu sans vote est en train peut-être d'évoluer vers un débat avec vote après la pression des différentes parties et de groupes au sein de la majorité.
Merci beaucoup. Merci de nous avoir éclairés. Merci les grandes voix à tous de nous avoir éclairés depuis Bruxelles, Isabelle Horry et vous tous partout là où vous vous trouvez. On vous retrouve demain, bien sûr, n'est-ce pas? Oui
demain,
ou pas? Ah, le oui. Bon, ça va. Salut les grandes voix.